Dans l'épître de Pierre, il y a ce verset où il est dit que Dieu nous a donné un exemple. Alors on a parlé ce matin ou hier, je ne sais plus, de la souffrance qui vient de notre faute. Bon, mais ça c'est une chose. Mais regardez, au verset 20, la deuxième partie du verset 20, 1 Pierre chapitre 2, verset 20, la deuxième partie. « Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Et, voyez, c'est à cela que vous avez été appelés. C'est quoi la vocation? Il y a des gens, ils lisent, voyez, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. La vocation, c'est les choses auxquelles nous avons été appelés. Un petit peu plus loin, il est dit, par exemple, verset 9 du chapitre 3, « Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Vous voyez, c'est une expression que les chrétiens devraient comprendre. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez voir votre pasteur et dites-lui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça vous permettra de comprendre. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que je le répète, nous sommes sur la terre et on est étrangers sur la terre. Notre terre, notre place, elle n'est pas là. On n'est pas fait pour vivre ici. À partir du moment où on se convertit, bon, Dieu pourrait nous prendre de suite dans le ciel. Mais il a besoin de nous pour que son œuvre se fasse. Mais on est étrangers sur la terre. C'est pour ça qu'à des moments, on n'est pas bien. Ça ne vous arrive pas des fois d'être mal? Est-ce que ça ne vous arrive pas des fois d'être mal? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas... On est voyageur sur la terre. Et ne vous traumatisez pas, parce qu'à des moments, on aimerait être ailleurs. Ça ne vous arrive pas des fois? Vous aimeriez pas être au paradis? Moi, ça me plairait, moi, d'y être. Moi, des fois, je dis, le soir, quand je m'endors, je dis, Seigneur, si tu veux me reprendre dans la nuit, je suis prêt. Est-ce que ça vous arrive de le dire des fois? Vous aimeriez pas, vous vous endormez, vous vous réveillez. Ah, ça me va. Vous aimeriez pas? Est-ce que ça peut nous arriver? Ben oui. L'enlèvement, ça sera encore plus rapide. Mais on est étranger sur la terre. Je vous le dis parce qu'il y a des souffrances qu'il faut analyser. Des fois, on aimerait être auprès du Seigneur. On aimerait. C'est bien. C'est bien. À des moments, on aimerait se retrouver près de lui. Voilà. On est étranger sur la terre. Notre terre, ce n'est pas notre patrie. Notre patrie, c'est la gloire éternelle. Ça peut vous aider à comprendre une certaine partie de la souffrance. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait pas d'injures, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Comment vous comportez-vous lorsque vous subissez des injustices? Comment vous comportez-vous lorsqu'on vous maltraite, lorsqu'on vous accuse injustement? Comment vous faites? Répondez à vous-même, bien sûr. Dieu nous a donné un exemple. Notre exemple, c'est le Seigneur. Notre exemple, ce ne sont pas les chrétiens charnels. Ah, mais lui, il fait comme ça. Alors, mais moi, je peux le faire aussi. Non, non, non. Notre exemple, ce ne sont pas les chrétiens charnels. Notre exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a souffert toutes les souffrances. Est-ce qu'il a souffert de la soif? Même sur la croix. Même sur la croix. Une des sept paroles de Jésus sur la croix, c'est « J'ai soif ». Je ne pense pas qu'il faisait allusion qu'à la soif physique. Je pense qu'il avait soif de nous avoir avec lui. Enfin, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il a souffert la faim? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans un corps. Par contre, il n'a jamais eu peur. Jamais eu peur. Quand est-ce que l'homme a eu peur pour la première fois? À la chute. Quand il a péché, il a eu peur. Il a souffert dans son âme, il a connu l'angoisse et la tristesse. Il a été tenté comme nous en toutes choses, on l'a vu l'autre jour. Il a connu le combat contre la tentation. Il a souffert de toutes les manières. Et je ne pense pas qu'un homme puisse comprendre les 3 heures de souffrance que Jésus a vécues, les 3 premières heures. Il est resté 6 heures sur la croix. Mais il y a eu 3 heures où il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il a pris tout le péché du monde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer. C'est incalculable. Il n'y a que lui qui pouvait faire quelque chose comme ça. Il a pris tout le péché du monde. 3 heures de ténèbres, il a été séparé de Dieu. quelque chose d'insupportable. Il l'a accepté pour vous. Il a souffert. Il a souffert. Vous lisez Ésaïe 53. Peut-être on en reparlera si on a le temps. Demain, je ne sais pas si on aura le temps. Mais lisez régulièrement Ésaïe 53. Ça vous fait prendre conscience de la façon dont il a souffert. Lisez. Vous aimez relire l'histoire de la crucifixion, de son arrestation. C'est quelque chose quand même. Trahi. On l'a chanté tout à l'heure. Ouais. Trahi. Abandonné. Laissé seul. Vendu. Vendu. Combien il a été payé ? 30 pièces. Vous voyez, quand vous lisez le Lévitique, c'était le prix des femmes. 30 cycles. Les hommes, c'était 50. Vous comprendrez pourquoi. Quelle honte. Même là, ils ont poussé le mépris à le payer le prix d'une femme. Dans le contexte, bien sûr, de l'Ancien Testament. Il a souffert avec les autres. Il a souffert de la part des autres, à cause des autres, pour les autres. Il n'a pas souffert quand il a dit « Tous m'ont abandonné ». Vous vous rendez compte ? Lui qui disait quelques jours avant « Venez à moi, vous tous ». Il va être obligé de dire « Tous m'ont abandonné ». Il n'a pas souffert ? Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Il nous a donné un exemple. Peut-être que des gens vous ont abandonné. Est-ce qu'il y a des amis qui vous ont abandonné ? Est-ce que vous avez perdu des amis ? Moi, j'ai perdu 3 amis. Des amis. Parce que je leur ai dit ce que je pensais. Est-ce que c'était des amis ? Je ne sais rien. Je ne sais plus. 3 amis. Est-ce que j'ai bien fait ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais là, ça n'a rien à voir, bien sûr, mon exemple. Mais quand on voit la souffrance de Jésus, Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Pour accepter la souffrance, pour comprendre la souffrance, pour s'armer de la souffrance, il faut comprendre la souffrance de Jésus-Christ. Il a été élevé par la souffrance. Élevé, c'est-à-dire, il a été éduqué par la souffrance. Là aussi, c'est des mots élevés. Peut-être quelqu'un va penser, ah, il a été insensé. Non, élevé, on élève un enfant. Il a été éduqué par la souffrance. Et il a réagi en ne disant rien. Pourtant, il est venu comme sauveur. Mais je veux dire, il aurait pu parler. Il n'a pas ouvert la bouche. Des fois, c'est le mieux. Évite les discussions vaines et inutiles. Moi, je me suis fait avoir dernièrement dans une discussion. Je me suis fait emporter. Ça a été une dispute. J'en ai eu honte. Moi qui enseigne à tort et à travers, ne combattez pas contre la chair et le sang. Il a donné un exemple, il n'a rien dit. Lui qui injuriait, ne faisait pas de... Il disait, il avait le pouvoir. Est-ce qu'il avait le pouvoir, tiens, en fait, Jésus, à n'importe quel moment de son existence, de retrouver sa condition divine ? Est-ce qu'il aurait pu dire à un moment donné, bon là, ils exagèrent, je redeviens Dieu ? Je pense que ça aurait pas tourné de la même manière. Non, il a accepté, il a souffert. Est-ce que ça valait la peine qu'il souffre jusqu'au bout ? On ne serait pas là ce soir. Il n'y aurait pas grand monde au ciel d'ailleurs. Hein? Il a réagi, il nous a laissé un exemple. Hier, on a parlé de Job. C'est un modèle de souffrance. Et lisez le livre de Job. Lisez-le. Lisez-le et ça va vous aider. Parce que Dieu dira à la fin de son livre, voilà, Job n'a pas mal parlé. Et pourtant, il va parler d'énormément de souffrance. Il faut comprendre la souffrance. J'aimerais ce soir m'autoriser à vous expliquer quelque chose à ma façon. Vous savez que bon, Jésus a supporté la souffrance. On parle de la longanimité, c'est-à-dire que c'est la patience dans la souffrance. C'est un mot que vous n'entendrez pas au journal de TF1, la longanimité. Mais c'est dans la Bible. C'est-à-dire que c'est une patience intense qui amène à accepter toute la souffrance. Bon, pourquoi Jésus a-t-il pu supporter cette souffrance, parce qu'il faut des éléments pour armez-vous de la pensée de souffrir, armez-vous de la pensée de souffrir. Il faut quand même avoir quelques compréhensions des choses. Pourquoi Jésus a-t-il pu supporter toute cette souffrance ? Car même s'il était le Fils de Dieu, il s'est fait homme, comme nous, à part qu'il était saint, il est né saint, il n'est pas né pécheur, comme nous. Lisez avec moi, ce qu'on va voir c'est très important. Pour que vous saisissiez la pensée de souffrir. Hébreux 5. Je me suis beaucoup posé des questions sur cette affaire quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané, qu'il demande à Dieu d'éloigner cette coupe. Ça ne vous a pas turlupiné, cette affaire? Moi, oui. Hébreux 5, verset 7. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Je répète. « Qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété. » Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans le jardin de Gethsémané, il a combattu jusqu'à suer des grumeaux de sang. Moi, j'ai lu des commentaires de docteurs qui ont expliqué que quand un homme pourrait en arriver là, c'est que son cœur s'est tellement dilaté qu'il va mourir. Quand Jésus dit dans le jardin de Gethsémané, « Mon âme est triste jusqu'à la mort », ce n'est pas de la poésie. Des fois, on le dit, « Oh, je crevais. » C'est une façon de parler. C'est qu'on a besoin d'une heure de sieste. Mais quand Jésus dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort », c'est qu'il va mourir. Et quand il demande que cette coupe s'éloigne, il y a des gens qui ont dit, voyez, beaucoup, moi j'ai entendu ça toute ma vie, voyez Jésus, voyez au dernier moment, il n'était plus d'accord. Mais ce n'est pas ça. Il nous est dit, et on a la preuve dans le verset qu'on vient de lire, que Jésus, il a prié avec supplication et il a été sauvé de la mort. Mais il est mort Jésus. Mais alors qu'est-ce que c'est ça? Il a été sauvé de la mort. Oui, il a été sauvé de la mort dans le jardin de Gethsémané. Il a failli mourir et c'est pour ça qu'il a dit qu'il faut que cette coupe s'éloigne. C'était la coupe de la mort. Jésus a failli mourir dans le jardin de Gethsémané. Il ne demandait pas d'éloigner la coupe de la croix. Il demandait d'éloigner la coupe de la mort parce qu'il a failli mourir. Cette affaire de grumeaux de sang, renseignez-vous, vous prouve que Jésus a failli mourir. Il demandait d'éloigner la coupe de la mort avant l'heure. Parce que pour qu'on puisse être sauvé, il fallait que Jésus-Christ aille à la croix. S'il était mort dans le jardin de Gethsémané, ça n'aurait pas marché. Il fallait qu'il meure au calvaire pour porter le pardon de nos péchés. Et c'est là qu'il a été exaucé, qu'un ange est venu pour le fortifier. Et je vous en supplie, ne dites plus jamais. Voyez, même Jésus, dans le jardin de Gethsémané, il a demandé à Dieu s'il n'y avait pas une autre solution. Mais franchement, que Jésus puisse avoir pensé ça, c'est pas possible. Plus vous connaîtrez Jésus et vous vous rendrez à l'évidence que Jésus n'a pas pu demander à Dieu qu'il éloigne la coupe du calvaire. C'est impossible. Il est venu pour ça. Toute sa vie, il a vécu à l'ombre de la croix. Toute sa vie, il s'est préparé à ça. Et vous croyez qu'au dernier moment, il aurait eu la peur? Non, il n'a pas eu peur. Il n'a jamais eu peur, le Seigneur, parce qu'il n'a pas connu le péché. Il a été triste parce qu'il portait notre péché. Il a souffert. Et plus vous réalisez la souffrance, et je vous invite, quand vous prenez le pain et le vin, parce que moi, je ne sais pas si ça vous est arrivé, deux fois de prendre la Sainte-Seine par habitude. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé, moi, pendant des mois, je prends la Sainte-Seine, et ça m'est arrivé, mais j'ai honte. J'ai honte de penser à autre chose. Je suis à la prédication, que j'allais apporter, autre chose d'encore plus secondaire. Et un jour, j'ai dit, ça ne peut pas durer. Maintenant, quand je prends la Sainte-Seine, quand je bois le vin, je pense à une scène où Jésus a souffert. Les grumeaux de sang, quand il a été flagellé, quand il a enfoncé la couronne d'épines sur la tête. Quand je prends le pain, je pense à ce corps brisé. Et ça me permet de mieux accepter la souffrance que je peux traverser dans la vie. Quand ça se présente à cause du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il a souffert, il n'a pas demandé que Dieu éloigne la croix. C'est impossible, je vous le dis. Beaucoup d'enseignants ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, mais moi j'en suis convaincu puisqu'il est dit qu'il a été sauvé de la mort après avoir prié, alors qu'il est vraiment mort après. Donc dans le jardin de Gethsémané, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ma version, mais moi je le crois vraiment. Oui, il a souffert. Plus vous comprenez la souffrance de Jésus, moins vous aurez du mal à gérer la vôtre souffrance. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez traverser. Nous, on connaît, Monsieur Serré en connaît, il y a le pasteur Albert Bazzi, il y a le pasteur Stéphane Vautier. Nous sommes tous régulièrement confrontés à des situations de collègues, de chrétiennes, d'anciens, qui décrochent parce qu'ils n'ont pas accepté la souffrance. Et la Bible nous demande, armez-vous, acceptez toutes les épreuves que vous pouvez rencontrer. Ne dites pas, ça, je ne le supporterai pas. Ça me sera dur, oui. Je sais que Dieu m'aidera, je sais que Dieu me rejoindra. Je sais que Dieu me fortifiera. Vous ne savez pas le nombre de fois peut-être où Dieu a envoyé un ange pour vous garder. Bon, Dieu a pas voulu que l'ange vous apparaisse parce que vous auriez peut-être eu les chevilles qui auraient pris une certaine dimension. Mais franchement, vous ne croyez pas que les anges vous ont gardé plusieurs fois? Est-ce qu'il y en a qui pensent que les anges vous ont protégé? Et avant votre conversion, quand vous leviez le poing contre Dieu, ce n'est pas écrit dans Hébreux que les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Moi, quand j'avais 13 ans, j'ai pris un coup de fusil à bout portant. Et qu'est-ce que je bénis Dieu? J'aurais pu mourir ou j'aurais pu être complètement défiguré. Je remercie Dieu qui m'a épargné. Parce que, un, je serais allé à l'enfer, ou deux, je serais complètement défiguré. Les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et si on n'est pas mort avant notre conversion, c'est parce que les anges nous ont gardés. Et merci Seigneur si on ne les a pas vus. Hein, c'est bien. Il a été exaucé à cause de sa piété. Bien sûr que la souffrance n'est pas un but en soi. Souffrir pour souffrir, ça révèle de la psychiatrie. C'est pas plus compliqué que ça. Du masochisme. Vous savez qu'il y en a des masochistes. Des gens qui se font souffrir. C'est pas ça. Mais s'il le faut, comme dit la Bible, je préfère être prêt. S'il le faut. Vous à qui Dieu appelle, voyez, on a entendu une prophétie. Peut-être que des jeunes sont appelés au ministère. Oui, vous souffrirez. Mais vous souffrirez moins que de ne pas avoir obéi au Seigneur. Vous comprenez? On souffre plus quand on n'obéit pas à Dieu. On est heureux quand on fait ce que Dieu nous demande. J'ai lu l'histoire dernièrement d'un comité missionnaire américain. Ils ont été voir une femme au Japon qui travaillait dans le milieu défavorisé. Mais dans les taudis, vraiment. Une missionnaire américaine. Et quand ils ont vu là où elle habitait, dans ces taudis, ils ont dit, mais écoutez, c'est inacceptable que vous viviez dans ces conditions. Mais vous vous rendez compte? En tant qu'américaine, vivre là dans un taudis auprès de tous ces malades. Alors la femme qui dit, ne me sortez pas de là. Dieu m'a placé là, c'est ma place, je suis heureuse. Mais je suis sûr que cette femme, parce que bon, là c'est son témoignage, j'aimerais savoir tout ce qu'elle a vécu avant pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a fait. Et elle a dit, si c'était à refaire, je referais pareil. Je pense que cette femme, de toute petite, je ne sais pas comment ça s'est produit, elle s'est préparée, je parlais de David, c'est exactement la même chose. Oui, un athlète, c'est écrit, regardez avec moi dans 2 Timothée. Ce qu'il vous faut faire, les frères, les jeunes en particulier, c'est méditer la Bible. Moi je suis peiné quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il veut servir Dieu et qui ne lit pas la Bible. Et vous savez que ça arrive? Des gars me disent, parfois, Monsieur Gau, j'aimerais être pasteur. Vous lisez votre Bible? Non. Ça m'étonne. De Timothée 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voyez? Souffre avec moi. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Je vous ferai remarquer que chaque fois que Dieu parle des épreuves, il a la délicatesse de nous parler des résultats. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous nous décourageions. Et il faut se préparer. Un athlète, il se prépare mentalement. Vous n'avez pas entendu des fois des témoignages d'athlètes, comment ils se préparent? Quand ils me font rire les journalistes sportifs, quand ils interviewent un athlète. Alors, comment vous en êtes arrivé là, à leur micro? Moi, je réponds avant eux. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. Tous, interviewer un chanteur, un artiste, n'importe qui. Comment vous avez fait? On a beaucoup travaillé, on a renoncé. Mais dans le monde, c'est écrit. Ils acceptent l'idée de souffrir. Il y a des gens qui font les Jeux Olympiques. Moi, j'ai entendu une jeune fille qui travaillait 12 ans. Une Russe qui travaillait 12 heures par jour. 8 à 12 heures par jour. La barre fixe, pendant 4 ans pour une minute de prestation sur une poutre. Vous vous rendez compte? Franchement. Et nous les chrétiens, pour des récompenses éternelles, pour des œuvres éternelles, on n'est pas capable de s'appliquer, la preuve si, puisque vous êtes là, à travailler un sujet aussi important que la souffrance, car quand vous lisez la Bible, vous n'avez que ça, Dieu qui est en train de régler des problèmes. Je comprends pourquoi on l'a appelé le réparateur des brèches. Je commence à le comprendre. Il fait que ça. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu y répare. Il fait que ça. C'est le professionnel de la réparation, le Seigneur Jésus. Et il sait réparer. C'est pour ça qu'il faut... Mais les chrétiens, ils doivent se préparer. Peut-être que vous serez missionnaire. Moi, je n'ai pas été préparé pour la mission. Je suis parti en mission et de suite, je savais que j'allais souffrir. De suite. Je le savais. Je n'étais pas prêt. On m'avait rien enseigné sur certaines choses. Et en plus que Dieu a permis des épreuves, on aurait dû me préparer. On se prépare. C'est pour ça que Dieu dit « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Lisez l'épître de Pierre. C'est une épître sur la souffrance et la gloire. Méditez cette épître et vous verrez les progrès que vous ferez. Et Dieu, dans sa souveraineté, veut que nous soyons délivrés de certaines choses pour être utiles. Je termine avec cette pensée de Pierre. On pourrait peut-être lire cette affaire. On a vu l'histoire de Job où Dieu autorise Satan à cribler Job. Nous allons voir dans le Nouveau Testament une affaire similaire mais qui n'a pas duré des mois, qui a duré que quelques jours. Dieu a autorisé Satan à cribler l'apôtre Pierre en particulier. Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Il aurait pu dire, « Mais je vais prier pour toi et tu ne seras pas criblé. » Est-ce que Dieu avait le pouvoir d'empêcher ça? Ben oui, il va l'autoriser. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et que toi, voyez le résultat, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, mais je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Verset, on ne va pas lire tout l'ensemble, mais regardez quand même ce qui s'est passé, verset 60. Pierre répondit, « Homme, je sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Quand je vous dis que Dieu règne, surtout, le Seigneur, ça s'est passé dans la même cour. Ils étaient peut-être, comme d'ici, à la fin de la pièce, au fond de la pièce. Pierre s'étant retourné, regarda Pierre. Imaginez-vous le regard que Jésus a dû porter sur Pierre. Quel regard d'après vous? Le regard de Dieu, parce que nous, le regard qu'on a sur Dieu, c'est une chose. Mais ça serait peut-être plus intéressant de voir comment Dieu nous regarde. Moi, je pense que ça devait être merveilleux, ce regard. Ça n'est pas un regard de Dieu, tu vois? Je suis sûr que Dieu lui a parlé au travers de ce regard. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et Pierre était... Et les scories commençaient à sortir. Anne a pleuré amèrement. Des années. Elle pleurait. Elle était mortifiée. Elle était dans une adversité pas possible. Son mari avait pris 2 femmes. Et entre elles, il y avait une confrontation, une amertume, une jalousie, une rivalité. Et pourtant, elle montait au temple. Et elle pleurait. Elle était dans l'amertume. Et un jour, elle a dit, ça ne peut pas durer. Quand vous lisez tous les mots qui parlent de la souffrance dans l'affaire de Anne, c'est une femme qui a beaucoup souffert de l'amertume, de la tristesse. Elle ne mangeait plus. Elle était devenue anorexique. Et un jour, Elle a pleuré amèrement, mais elle n'a pas répandu l'amertume sur les gens. Elle a répandu son amertume aux pieds du Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tout. C'est ça, la différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels qui, des fois, nous déversent leurs trucs. Oui, mais moi, j'arrête pas d'en parler, mais parlez-en à Dieu. Pierre, il a pleuré amèrement. Lui qui avait dit, moi, je ne te réunirai pas. Les autres, oui. Et il a dit ça. Mais moi, non. Est-ce qu'il mentait? Non. Est-ce qu'il se connaissait? Non. Est-ce qu'il avait besoin d'apprendre certaines choses? Oui. Qu'il fallait que certains traits de son caractère soient remplacés par la bénédiction de Dieu. Il fallait que sa propre force, parce qu'il était fort, puisqu'il a tranché l'oreille, il a essayé, je ne sais pas s'il a essayé d'y couper la tête, mais le serviteur du souverain sacrificateur a failli prendre très mal. Il ne lui a coupé que l'oreille. Il n'a pas eu peur, Pierre. Ce n'était pas parti pour qu'il le renie. Il n'a pas eu peur devant un homme. Il a eu peur devant une femme. Ce qui prouve que personne ne sait la chose qui nous fera tomber. Et c'est pour ça que quand Dieu donne un conseil, il vaudrait mieux dire « Seigneur, aide-moi ». Mais Dieu savait, le diable t'a réclamé, parce qu'il y a une faille. Vous savez, le diable, il permet certaines choses parce qu'il y a des failles. Et heureusement que Dieu, connaissant tout cela, va préparer les circonstances pour intervenir dans cette situation, afin que notre foi ne se détruise pas, mais que notre foi soit purifiée. Vous me suivez? C'est pour ça que Dieu permet des épreuves, et voilà. Et Pierre a pleuré. Il a pleuré amèrement. Est-ce que c'était bien qu'il pleure? Ouais. Et ouais, puis après, quelques jours après, il l'a vu à trois reprises. Et à la troisième reprise, après la pêche, là, vous savez que vous ne savez plus quoi faire trop, que Jésus leur a préparé du poisson et du pain rôti au bord du lac, quand ils ont appris que Jésus arrivait, il y a Jean qui a dit, mais tu sais pas, sur le bord du rivage, c'est Pierre. Pierre, il s'est jeté à la mer. Et puis après le repas, Jésus l'a dit à Pierre, ça serait bien qu'on se voie. Et Jésus aurait pu lui dire, alors, t'as entendu le coq? Non mais franchement, est-ce que Jésus n'avait pas l'autorité de dire, alors Pierre, fais plus le malin? Est-ce que le Seigneur aurait pu, hein? Pierre, t'es comme minable. Je ne sais pas comment vous parlez, vous, aux gens qui ont commis une erreur. Pierre, est-ce que tu m'aimes? J'imagine les yeux de Pierre, là, fraîchement. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Trois fois. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que vous êtes comme Anne, avec de l'amertume, vous souffrez. La stérilité spirituelle s'est attachée à vous. Vous ne comprenez rien. Le pasteur qui est à côté ne vous comprend pas. Quand elle répandait son cœur, il a cru qu'elle avait bu. Vous savez, le discernement, on ne l'a pas toujours. Et heureusement que Dieu n'agit pas forcément comme les gens pensent qu'il devrait agir. Vous avez vu Élie, comment il a parlé à cette femme, « Allez, va cuver ton vin ailleurs. » Elle dit, « Mais non, je suis pas saoul. Je n'aurai pas mon cœur devant Dieu. » Elle souffrait. Moi, je trouve que la souffrance de Anne a produit un immense résultat. Vous savez à qui elle a donné naissance? Hein? Est-ce que ça valait la peine? La souffrance a toujours un résultat quand on réagit bien. Pierre, il a été certainement bouleversé par le regard de Pierre. Anne, elle s'est dit à un moment donné, bon, ça suffit, d'accord, je souffre, mais je ne vais pas faire la tête à tout le monde. Je vais aller au temple. Elle y allait tout le temps, mais là, parce qu'on peut aller à l'église pour rien. Mais un jour, elle a été à l'église, elle a pleuré. C'est pas, ne vous forcez pas à pleurer, on ne pleure pas sur commande. Elle a pleuré. Pourquoi? Ben, elle avait besoin de pleurer. Ne vous forcez pas à pleurer. Ça peut arriver. Et ça a tellement plu à Dieu qu'il a dit que son visage ne fut plus le même. Et on parle d'elle ce soir. Et on parle de Pierre. Elle a souffert. Pierre a souffert. Job a souffert. Merci les frères. S'ils étaient là, s'il était là, je leur dirais merci.
Ben, si c'était là, c'est eux qui prêcheraient, bien sûr.
Est-ce que ça valait la peine qu'ils souffrent? Vous ne savez pas ce que votre souffrance produira. Acceptez-la. Pierre, tu vois, le diable, il t'a réclamé, tu as besoin de passer par là. Tu as un caractère, il faut régler un truc là. Mais tu vas être changé après cette épreuve. Et tu affermiras les autres. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, j'accepte l'épreuve que je traverse, et tu vas me bénir, et je vais faire du bien aux autres maintenant. Vous avez envie de faire du bien aux autres? Vraiment? Même si les autres vous déçoivent? Vous rappelez Joseph? Est-ce qu'il a été déçu par ses frères? Est-ce qu'il y avait une pseudo-déception dans la vie de Joseph? Oui? Il a pleuré lui aussi. Quand il les a vus, il est parti dans une chambre pour pleurer. Et dans la vie, il y en a des pleurs. Comme je le disais ce matin, les pleurs, c'est des paroles liquides. C'est vrai. Et je voudrais ce soir que vous compreniez que quand Dieu dit « armez-vous », c'est une bénédiction. Je serai prêt. Et Dieu, il voit quand on est prêt. Quand quelqu'un est prêt, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise. Des fois, on chante « Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. » Vous me suivez? Et moi, quand je discute avec les gens, parfois, je leur dis, mais c'est bien. Mais il faudrait que vous commenciez à laisser Dieu vous toucher. Alors, est-ce qu'on pourrait fermer les yeux? Est-ce qu'on pourrait dire, Seigneur, tu vois, je retiendrai quelque chose de ce séminaire, c'est que je veux être armé. Pas qu'armé extérieurement, armé intérieurement. Armez-vous de toutes les armes. À quoi ça sert un soldat d'avoir toutes les armes s'il n'est pas armé intérieurement de courage? Vous pouvez mettre le casque, la ceinture, la cuirasse, les sandales et tout ce que vous voudrez, le bouclier. Si un soldat n'a pas de courage, il est paralysé. Comme cette jeune fille qui me disait l'autre soir, je n'ai pas eu peur quand mon père était en train de mourir dans les bras, parce qu'elle a accepté l'idée que cette épreuve pouvait se présenter. Et si vous acceptez l'idée que n'importe quelle épreuve peut se présenter dans votre vie, de la même manière que n'importe quelle bénédiction peut se présenter, vous serez armé. Et Dieu dira, ce jeune homme, il est prêt. Sur le champ de bataille, dans la vallée de Héla, il n'y avait aucun soldat qui était prêt. Et Dieu a envoyé un jeune qui n'avait aucune expérience de la guerre, qui s'appelait David. Il était prêt, lui. Peut-être que vous n'êtes pas un pasteur, pas encore, mais Dieu voit que vous voulez vous préparer. Vous savez, un séminaire comme ça, c'est un moment où Dieu nous donne un rendez-vous. Dieu, plusieurs, vous êtes déjà venus me voir, donc je ne le suppose pas, je sais que c'est déjà vrai. Plusieurs sont venus me voir, me dire qu'il fallait que je vienne à ce camp. Il fallait que je fasse le point avec Jésus. Certains, je le sais, sont appelés au ministère. Agape, des multitudes dans ce camp ont été appelées par Dieu. Quelle joie pour moi d'être ici, dans un endroit où Dieu a béni. Dans un endroit où Dieu bénit encore. Ce soir, on a affaire à Dieu. On n'a pas affaire à l'église évangélique ou à un pasteur de Toulouse. On a affaire à Dieu. Oui, arme-toi de la pensée que servir Dieu peut t'amener à certaines souffrances. Et pourtant, je le répète, tu souffriras malgré tout moins que de désobéir à Dieu. Et il fallait que Pierre se débarrasse de sa propre force, ou soit débarrassé de sa propre force, pour enfin obtenir la force du Seigneur. Oui, Dieu sait, il ne peut pas, c'est impossible, il peut pas se tromper. Il fait même chanter les coqs au bon moment. Merci Seigneur. Je fais un appel maintenant, c'est le premier que je fais de ce week-end. Un appel, c'est pas dire, tiens, je vais... Ah, il y en a qui se sont levés, je me lève, tiens. Il y a des gens, ils viennent à l'appel quand d'autres viennent. Bon, je ne vais pas juger, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité. C'est entre toi et Dieu. Moi, s'il n'y a personne qui se lève, ce n'est pas mon problème. Je veux vous aider à concrétiser une démarche. Un appel, c'est pas, je ne vais pas dire, ah, tiens, il y en a, vous rendez compte, il y en a, oh, il y en a la moitié qui se sont levés. Mais ça ne veut rien dire. Anne, elle s'est levée. Elle n'a pas été au temple de la même manière que toutes les autres années. Elle voulait se lever. Il fallait qu'elle règle un truc. Et si je fais un appel, c'est entre vous et Dieu. C'est solennel, je ne peux pas dire que c'est sacré, mais c'est sérieux parce que l'éternité des gens est liée à ça. Je suis pasteur, il y a des pasteurs dans cet auditoire, et nous savons pertinemment que nous sommes là pour le salut des gens. Dieu nous garde sur la terre tant qu'il a besoin de nous pour que nous aidions des gens à ne pas aller à l'enfer. Et je fais un appel aux jeunes hommes, aux jeunes filles, aux adultes qui sont là. Voulez-vous croître spirituellement? Parce que, en fin de compte, tout tient à ça. Nous grandissons physiquement, nous grandissons sans nous en rendre compte. Physiquement, on grandit naturellement. Intellectuellement, on grandit en apprenant les choses. Les pharisiens connaissaient, avaient appris beaucoup de choses, mais ils n'étaient pas mûrs spirituellement. Et quand ils ont vu Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Siméon a reconnu Jésus quand il était un bébé. Les pharisiens, quand ils ont vu Jésus exercer son ministère à 30 ans, ils ne l'ont même pas reconnu. La maturité spirituelle, la croissance spirituelle, elle vient que par l'épreuve. C'est comme ça. Et je fais un appel pour vous aider à concrétiser ce que l'on vient de partager. Qui dit au Seigneur, arme-moi. Je veux me revêtir de la vérité pour ceinture. Je veux surmonter le mal par le bien. Tu m'as donné un exemple, quand on se moquera de moi au boulot parce que j'ai parlé de toi, eh bien je dirai rien. Ou je demanderai peut-être les mots qu'il faut pour avoir un peu de tact et même un peu d'humour s'il le faut. Seigneur, je veux être armé du casque du salut. Je veux que ma tête, mon cerveau soient protégés. La cuirasse de la justice. Quand mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Vous ne pouvez pas, vous ne présentez pas devant Dieu parce que vous êtes meilleur, que vous avez fait des progrès. Tiens, j'ai fait des progrès, je peux mieux m'approcher de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est ridicule. On s'approche de Dieu parce que son sang nous permet de nous approcher de lui. Si vous n'avez pas fait de progrès, eh bien sûr, ce n'est pas bien. Mais vous pouvez vous approcher de Dieu quand même. Par le sang de l'Alliance. C'est ça les armes. Je suis armé à tel niveau, à tel autre, au niveau psychique, au niveau intellectuel, au niveau spirituel bien entendu. Et je deviens utile. Peut-être qu'à ce séminaire, le Seigneur a fait ce qu'il a fait du temps de Jérémie lorsqu'il est entré dans la maison du potier. Il a vu un potier qui était en train de briser un vase pour en refaire un autre. Parce que le premier, il n'avait pas réussi. Heureusement que Dieu, oui, il refait les choses. Peut-être que ce séminaire permet à Dieu de vous refaire à nouveau. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Nous, les vases cassés, on les jette. Ben, le Seigneur, il les reprend. Et il les refait. Peut-être que vous êtes brisé, que vous n'arriverez à rien faire. Dieu, il propose un programme. Qui veut se placer sur le tour ? Je vous aide sur le tour, là. Le séminaire, c'est comme un tour. Et les mains du Seigneur se posent sur vous. Et il refait le vase. Si c'est les mains du Seigneur, ça va. Seigneur, que tes mains se posent sur moi. Je veux être un vase d'honneur, je ne veux pas être un vase inutile. La Bible parle des vases d'honneur. Ce qui est important, ce n'est pas le vase. C'est ce qu'il y a dedans. Mais pour que ce qui est dedans soit bien, il faut que le vase soit bon. Et le trésor, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de toutes ces prédications. Moi, dans ma tête, c'est clair, je l'ai préparé pour vous nourrir comme le cuisinier prépare un repas et tout ça, c'est bien fait. C'est super d'avoir un peu de temps en plus. Êtes-vous comme Anne? Dites, oui, je suis brisé, je suis comme Pierre, je suis malheureux. Je pleure parce que j'ai rétrogradé. Est-ce que je peux revenir?
Mais répondez à la question.
Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que vous aimez Jésus? Qui veut se lever et dire, Seigneur, tu vois, je me lève devant toi. Je me lève devant toi. Tu vois, c'est bien sûr que c'est que physique, mais ça exprime une décision. Comme Anne, elle s'est levée. Et à la place de se plaindre, elle a prié. Et Dieu l'a guéri. Qui veut se lever devant Dieu? C'est devant Dieu. Imaginez-vous vraiment que Dieu est là, que Dieu vous voit, et je voudrais prier pour vous. Pour que Dieu vous aide à faire ce que Daniel a fait, à prendre des résolutions. À arrêter peut-être de chanter « Sers-toi de moi » et à commencer à le servir. À arrêter de chanter « Règne en moi ». Mais si vous voulez que Dieu règne, obéissez-lui. Et il règnera. C'est sérieux, on ne se lève pas pour se lever. Dieu voit cette attitude de cœur. « Seigneur, je vais redescendre dans la vallée demain après-midi, mais je ne vais pas redescendre. » Pour me replacer devant mon ordi, je vais redescendre et je connaîtrai tes mains bénies. Je voudrais qu'on puisse rechanter après cette prière le chant que notre frère nous a chanté ce matin, à savoir qu'on peut se retrouver dans ses bras. Dieu est un Dieu de paix. Quand sa foire souvent, il s'approche, il dit que la paix soit sur vous. Je vais prier. Priez aussi. Ne faites que remuer les lèvres. Ça suffit. Enfin, priez dans votre cœur. Dieu, il regarde maintenant. Il passe dans les rangs. Je vous assure, c'est si important. Même si vous êtes âgé, Dieu a besoin de vous. Sinon, il y a longtemps que vous seriez avec ceux qui nous ont précédés. Alors, ayez la joie de savoir que votre Père ne vous accuse pas. Ne vous accable pas. Il vous dit ce soir, on fait comme avec Jacob, on recommence. Les hommes devant Dieu, levez-vous pour être des hommes de Dieu. Les sœurs, levez-vous pour être des servantes du Seigneur, des princesses dans l'histoire de l'Église. Quelqu'un un jour a dit, ah, si on pouvait écrire un 29e chapitre du livre des Actes. Qu'est-ce que j'ai aimé cette parole? Poursuivre l'histoire de l'Église avec la puissance du Saint-Esprit. L'Église primitive, elle a vécu dans la souffrance, mais elle a vécu dans la gloire. Ils étaient heureux. Paul, Saul, dès qu'il s'est converti, Dieu lui a dit, je te montrerai ce que tu dois souffrir. Lui, il a été préparé dès le début. Et quand il a achevé sa course, il était plein de joie. Quand on est armé pour souffrir, c'est une évidence. On termine la course avec joie. Si vous n'acceptez pas l'épreuve vous détruira. Si vous n'acceptez pas le désert, vous mourrez dans le désert. Si vous acceptez l'épreuve, vous mourrez dans la joie. C'est comme ça. Et il y aurait tant et tant de choses à dire sur l'épreuve. C'est un sujet passionnant. Et c'est comme ça qu'on termine la course. Notre Dieu, merci de nous avoir laissé ta parole. Nous serions tous perdus, même si tu avais donné ta vie au calvaire sans l'enseignement de ta parole. Et tu vois ceux qui se sont levés, Seigneur. Tu sais comme Anne. Tu vois exactement ceux qui se lèvent comme Anne, ceux qui se jettent de la barque comme Pierre pour régler le précédent qu'ils ont eu avec toi. Mon Dieu, merci de nous montrer la façon dont tu nous accueilles. Merci, Seigneur. La façon et ta pédagogie quand tu te réconcilies avec nous. Que ton nom soit béni. toi qui seras le grand juge de l'univers, nous avons vérifié que tu es vraiment notre Père. Tu sais combien ça nous touche, Seigneur. Toi qui pourrais nous réhabiliter comme des esclaves, tu nous réhabilites comme des fils. Franchement, Seigneur, merci. Du fond du cœur, merci. Seigneur, oui, nous voulons être armés pour que nos enfants, nos petits-enfants, les enfants qui naîtront si tu tardes, soient bénis à cause de notre piété. Et nous voulons te prier. Bien sûr que jamais nous ne pourrons imiter tes prières et nous ne voulons surtout pas. Mais nous voulons te prier avec cri, avec larmes, avec compassion, pour que la croix ne s'éloigne pas de nous. Tu règnes au siècle des siècles. Tu nous as donné la vie. Tes anges nous ont gardés quand on se moquait de toi, mais vraiment, il fallait que tu nous aimes, Seigneur. Et je te prie vraiment pour que ce week-end soit non seulement un rendez-vous, mais une profonde confrontation avec notre Dieu. Bénis ces jeunes. Tu vois tous ceux qui sont debout. Qu'ils soient comme Daniel, résolus, déterminés, fermes, dans toute l'adversité, quel que soit le résultat, blessure ou pas. Merci pour les blessures. Merci pour toutes les fois où nous en sommes sortis sans blessure. Merci pour tout de toute façon. Que ta volonté soit faite. Continuons à prier pendant ce chant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, frère, commencez ce chant. Restez debout si vous voulez. Asseyez-vous. Sentez-vous libre. Si vous voulez vous lever maintenant d'autres pour exprimer votre prière, soyez vrai. Mais restons dans cette attitude de reconnaissance. Jetez-vous dans ses bras. C'est le meilleur endroit au monde. Les bras du Seigneur.